La pause maternelle. Nous voilà de retour pour la suite du témoignage de Marilyn. Écoute, je te laisse continuer. Peut-être que Lucille, tu avais une petite question à poser à Marilyn avant ?
Oui, j'avais une question notamment sur comment... Parce que souvent, c'est des choses qui peuvent arriver. Alors là, pas forcément dans des questions de deuil, mais à un moment donné où en fait la naissance n'arrive pas à se mettre en place, c'est-à-dire que là, du coup, le corps a une résistance ou le col n'arrive pas à s'ouvrir et compagnie. Il y a de nombreux écrits qui parlent de ça aussi, où du coup, bah là, le corps parle et veut retenir. Et moi, je reçois aussi des patientes qui, des fois, ont pu avoir ce côté-là de retenir. Et là, dans ton cas, c'est vraiment aussi quelque chose de particulier. Et j'aurais voulu savoir ce qui a déclenché véritablement l'ouverture. Tu m'as dit que tu avais eu ta thérapeute holistique, qui avait eu la sage-femme, voilà, qui avait une dernière poussée de fièvre. Mais quels sont les mots peut-être que tu t'es dit à ce moment-là et qui font que voilà, ça s'est ouvert en fait et que du coup, tu as pu faire naître Hugo.
Alors c'est vrai que c'est une question assez difficile. J'avais vraiment le... Alors je pense déjà qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Le fait que j'étais à 7 mois de grossesse, normalement, physiologiquement, le corps à 7 mois, il ne donne pas naissance. Alors quand il y a des prématurités, c'est encore autre chose. Mais donc déjà, le corps n'est pas prêt à... La grossesse n'est pas aboutie. Donc du coup, normalement, le corps ne doit pas laisser ce bébé sortir. Donc je pense qu'il y a quand même un enjeu de ce côté-là. Et après... émotionnellement, moi non plus, j'étais pas prête, même si j'étais en paix. Oui, je pense que j'étais en paix avec notre décision parce qu'encore une fois, voilà, les antécédents familiaux faisaient que pour nous, c'était la meilleure option. Malgré tout, je savais que si je laissais partir, c'était terminé cette grossesse. Et j'en étais pas vraiment prête. Et en fait, à un moment donné, j'ai dit à Chantal, donc ma thérapeute, que je lui avais rendu sa liberté pour lui éviter, pour lui épargner toute souffrance, et que je voulais maintenant arrêter de souffrir parce que moi, je supportais plus en fait cet état. J'avais aucune souffrance physique, mais émotionnellement, c'était atroce, c'était au-delà de tout ce que je pouvais supporter. Donc, je lui ai demandé qu'elle m'aide à lui rendre ça. À reprendre ma liberté.
Durant tout ce parcours, hormis toi qui as décidé d'appeler ta thérapeute, est-ce que l'équipe médicale vous ont proposé il y avait eu un rendez-vous avec une psy, mais enfin hormis ça, est-ce qu'ils vous ont parlé d'un suivi psychologique ou d'un accompagnement en particulier?
Non, on n'a même pas vu de psy. Même pendant, après notre séjour, enfin, l'IMG, donc du coup, il est né à 20h35. Après, on a été placé en service de grossesse pathologique. Et là, on aurait dû avoir quelqu'un qui venait nous voir avant qu'on sorte de l'hôpital, du coup, le lendemain de la naissance. Et il y a eu une défaillance à ce moment-là. Pourtant, notre gynécologue a sollicité le service psy à plusieurs reprises. Et jamais personne nous a contactés. Et même un mois après, quand lui m'a rappelé pour savoir comment on allait, tout ça, il m'a dit « Est-ce que vous avez été contacté par la psychologue ?» Toujours pas. Et il était fou. Hein. Il a dit « Mais c'est pas possible. » Et il me dit « Je vais relancer. » J'ai dit « Écoutez, docteur, s'il vous plaît, ne le faites pas. » Parce que, en fait, je pense que là, un mois après, je pourrais être vraiment désagréable avec la personne qui va m'appeler. Parce qu'en fait, on a traversé le pire tout seul, quoi. Tout seul. Mais ça m'a conduit à ma reconversion, donc je pense qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Donc, oui. Donc il fallait qu'on traverse.
Tu as engagé ta reconversion, mais du coup, dans cette reconversion, est-ce que tu as ressenti le besoin de te faire accompagner pour pouvoir accepter et accompagner d'autres personnes sans qu'il y ait de transfert, c'est ce qu'on dit, hein, transfert ou contre-transfert, que ce que tu as vécu te permette d'avoir de l'empathie, c'est sûr, mais du coup, que ça te submerge pas. Comment est-ce que tu as fait, du coup, pour pouvoir transformer ça en un accompagnement, tu vois, qui soit favorable pour les autres femmes et pour toi et dans ta reconstruction, en fait?
Déjà, j'ai toujours fonctionné comme ça, en fait. Comme j'ai beaucoup souffert de, mes parents sont dans un deuil traumatique, qui n'ont un deuil non résolu. Ma sœur est décédée en 1986, on est en 2025. Ils n'ont toujours pas fait refaire son deuil, ça veut tout dire et rien dire. Oui. Mais ah, en tout cas, ils n'ont jamais réussi à réinvestir leur vie depuis le décès de ma sœur. Malgré que moi je sois née après, malgré que j'ai une autre sœur aussi qui est vivante, ils ont des petits-enfants, enfin voilà, il y a la vie qui est dans leur vie, mais pour autant, ils sont incapables de le faire. Et du coup, je me suis toujours dit, je ne veux pas ressembler à mes parents. Et je ne veux pas faire subir à mes enfants ce que j'ai subi vis-à-vis de leur souffrance, qu'ils ne maîtrisent pas, hein, bien sûr, mais c'était une autre époque, une autre génération, et on n'avait pas cette chance-là. En 86, avec tous les accompagnements qui existent aujourd'hui. Et donc moi, très tôt, à l'âge de 18 ans, j'ai connu justement Chantal et d'autres thérapies. J'ai fait énormément de choses pour apaiser mon chemin. Et finalement, ça m'a préparée à vivre cette épreuve avec plus de sérénité, si on peut dire, parce que j'avais les bonnes personnes dans mon entourage et que même si on n'a pas été... accompagné, on ne nous a pas proposé d'accompagnement psychologique. C'était évident pour moi qu'il fallait qu'on en ait un. Et pas que moi, mon mari et mes enfants aussi, parce qu'on a chacun vécu à notre manière la même histoire. Et donc, on a mobilisé des gens qu'on connaissait, d'autres qu'on ne connaissait pas. Donc, on a été chercher du relationnel. Est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait accompagner nos enfants? Parce qu'il faut savoir que c'est un psy par enfant. Oui. Un psy du couple et un psy par membre du couple, donc ça fait beaucoup de personnes à trouver. Mais oui, c'était indispensable et aujourd'hui, l'accompagnement psychologique, énergétique, émotionnel, enfin tout est parce que j'ai travaillé sur tous les plans.
Un accompagnement intégratif en fait.
Comment ?
Un accompagnement intégratif en fait, intégral de chacun des membres. Et ce que tu dis est. Et extrêmement puissant aussi parce qu'en fait, vous avez vécu ça seul et vous avez dû vous débrouiller seul en fait pour pouvoir vous en sortir. Et c'est vrai que ce que je note, c'est qu'effectivement, tu vois, à l'époque de tes parents, ça pouvait être beaucoup plus difficile d'aller vers des thérapies et tout ça. Bon, alors, il faut quand même savoir que a priori, les chiffres n'ont pas forcément énormément changé, mais qu'il y a quand même beaucoup plus de choses en développement personnel qui font que maintenant on y a plus accès. Mais il reste quand même que, peut-être à l'époque de tes parents, il y avait 21% de personnes qui allaient voir des psys parce qu'ils considéraient qu'ils en avaient besoin et qu'il y avait toujours ce truc-là de considérer qu'aller voir un psy, c'était aussi une forme de folie, même quand on en avait besoin. T'es pas habitué à ce genre de choses. Et c'est vrai que cette possibilité, cette ouverture qu'il y a avec le travail sur soi, le développement personnel, ça permet d'aller vers les personnes. Mais après, il faut trouver aussi la bonne personne. Comment est-ce que vous avez, quels ont été vos critères pour trouver les bonnes personnes aussi? Même s'il y avait les relations, ça, qu'est-ce qui vous a mené à trouver telle ou telle personne?
Eh ben, en discutant autour de nous, j'ai demandé, ma sœur avait déjà emmené son fils chez une psy, donc du coup elle me dit elle est super, il l'a adoré, je vais essayer. Je suis rentrée en contact avec elle, j'ai eu un bon feeling, j'ai dit bon bah déjà une de trouver. Et puis elle me dit bah écoutez, moi j'ai ma collaboratrice avec qui je travaille, elle est super, elle travaille un peu comme moi, je l'ai contactée, bon feeling. Bon, finalement ça a matché tout de suite. Donc, les enfants avaient chacun la leur et ça a bien fonctionné. Nous, on a d'abord été voir une spécialiste, enfin une psychologue clinicienne spécialisée en deuil périnatal, avec qui ça n'a pas du tout matché. On a fait deux rendez-vous. Alors, très gentille, mais psychologue au sens.
Alors, qu'est-ce que tu veux dire pour ça, du coup? Psychologue, dans le sens, elle ne répondait pas forcément.
Elle accueillait nos paroles. Voilà, donc elle était avec beaucoup de bienveillance, et voilà, mais elle était dans l'accueil, et finalement, on discutait, quoi, quand on allait... Enfin, on discutait même, on parlait entre nous.
Et qu'est-ce que toi, t'aurais voulu à ce moment-là?
Eh bien, des conseils, comprendre ce qu'on traversait, ce qu'on vivait, ce qui a été le cas avec la... Du coup, on a changé de thérapeute et on en a trouvé une autre, et ne serait-ce que comprendre les étapes du deuil. Comprendre pourquoi on chemine pas pareil, pourquoi mon mari et moi on vit plus la même chose, parce qu'autant pendant tout le parcours on a été hyper soudés, autant il y est arrivé un moment où dans notre chemin de deuil on vivait les choses très différemment, et du coup ça nous a pas éloignée, mais il y a à certains moments, il y a un fossé qui était là en train de se creuser et de s'installer. Et heureusement qu'on avait la thérapeute qui était là pour nous dire « Monsieur vit ça comme ça et c'est normal, Madame vit ça comme ça et c'est normal ». Et du coup, en fait, ça nous permettait juste de nous entendre, de nous écouter et du coup de se dire « Ah oui, ah, mais du coup, on se comprend ». En fait, on se comprenait alors qu'à certains moments, on n'arrivait plus à dialoguer parce qu'en fait, la souffrance était tellement intense que on s'en voulait à l'autre. On avait l'impression qu'on ne souffrait pas de la même manière. Et du coup,
d'injustice, en fait, face à ce que la réaction de l'autre en se disant « Mais non, mais pourquoi est-ce que lui, il ne pleure pas? Pourquoi est-ce que lui, il ne fait pas ça? Pourquoi est-ce qu'elle ne fait pas ci ?» Tu vois, des choses comme ça.
Oui, et puis l'homme est très dans le constructif, dans le palpable, il a besoin de construire son foyer et tout ça. Et puis, il me parlait des choses, par exemple, sur les travaux de la maison. Et puis, alors moi, j'étais à des années-lumière de ça et j'en avais absolument rien à faire de ce qu'on allait mettre comme parpaing ou terrasse ou je sais plus quel était le sujet à ce moment-là. Et je comprenais pas que son souci soit placé ici, alors qu'en fait, c'est absolument normal et naturel qu'il le vive comme ça. Mais voilà, on avait besoin de cette personne, cette tierce personne qui nous fasse comprendre que nos cheminements étaient tout à fait normaux et ça aidait vachement. Et même avec l'entourage qui fait comme il peut, ça suscite beaucoup de colère parce qu'il y a des personnes qu'on aimerait sur qui on pourrait vouloir compter, qui ne sont pas prêtes à accueillir notre chagrin, qui du coup, elles-mêmes fonctionnent comme elles peuvent. Et ça aussi, c'est la thérapeute qui nous a fait comprendre que chacun fait comme il peut et que souvent, c'est pas par négligence ou par mépris ou par... On a le sentiment que les gens sont passés à autre chose et qu'ils s'en fichent, mais c'est souvent plus parce qu'ils sont démunis et ils s'en fichent pas du tout. Mais ils savent pas comment faire.
Moi, ce que j'entends dans ce que tu nous racontes, là, dans l'expérience que vous avez vécue avec les différentes psys, c'est qu'au final, vous avez vu une première psy avec qui ça n'a pas matché parce que tu as senti qu'elle n'apportait pas ce dont vous aviez besoin. Mais vous n'êtes pas arrêté là. Vous auriez pu vous dire, non, mais de toute façon, ça ne fonctionne pas. Enfin, voilà. Non. Vous avez senti que vous aviez besoin d'aller voir quelqu'un, d'être accompagné. Et du coup, vous êtes allé chercher ailleurs ce dont vous aviez besoin. Et je trouve ça remarquable parce que souvent, quand il y a un cheminement pareil, les gens, ils vont s'arrêter à la première expérience. Si ça ne fonctionne pas pour eux, c'est que ça ne fonctionne pas et peu importe qui ils iront voir. Et c'est, oui, c'est ce que je trouve dommage. Là où vous, non, au contraire, non, ce n'est pas celle qu'il nous faut, on va aller voir ailleurs.
Je ne sais pas, mais personnellement, professionnellement, j'ai rencontré très peu de familles qui vivaient un deuil périnatal qui n'avaient pas continué à chercher quand même. Parce que je pense que la souffrance est telle que du coup, il y a vraiment besoin quand même d'aller chercher, d'aller trouver, d'aller apaiser quoi qu'il arrive. Mais par contre, je trouve que leur chemin est pas facile en fait. Parce que du coup, c'est presque devoir se battre alors qu'en fait, il faut aussi reconnaître qu'à ce moment-là, vous êtes aussi en postpartum. C'est qu'il y a quand même eu une naissance, quoi. Il y a quand même eu une naissance et il y a eu une mort. Il y a les deux à accompagner sur une période qui est déjà fragile sans ça et qui fragilise encore plus. Et je trouve que du coup, c'est rajouter des bâtons dans les roues, en fait. Et je trouve ça vraiment dommage, quoi. Et que encore une fois, là, il n'est pas question d'étiquette, quoi que ce soit, même spécialisé. Il faut quand même que ça matche avec le thérapeute. Il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui se passe dans le relationnel, quoi. Pour pouvoir engager une thérapie simplement, quoi.
Et puis surtout que le postpartum plus un deuil, ça demande tellement d'énergie que c'est essentiel de trouver la personne qui vous ressource, quoi.
Oui, complètement.
Puis avoir les mêmes ressources aussi qu'en postpartum, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on a peut-être besoin d'avoir une personne qui puisse nous préparer des repas, soulager pour aller chercher les enfants, pour ce genre de choses. Alors c'est déjà pas vraiment fait en postpartum, on a encore du travail là-dessus, mais j'imagine que du coup en deuil, c'est d'autant plus compliqué parce que les gens ne savent pas effectivement, comme tu disais Marilyn, ne savent pas se positionner, et du coup en fait, ont du mal à se positionner, c'est pas qu'ils savent pas, c'est qu'ils ont du mal à se positionner parce que là on parle de quelque chose qui est tabou en fait, qui est la mort, que ce soit d'un enfant ou alors même d'une autre personne, c'est très compliqué à appréhender. Et c'est pas des choses dont on parle véritablement aussi du chemin naturel de la vie et qu'il y a cette fin et qu'elle peut arriver à tout moment. Et donc, du coup, de pouvoir aussi mettre de l'énergie, de créer ce village, n'importe quelle que soit la situation, en fait. Et du coup, de vous sentir soutenu aussi là-dedans. Alors, je ne sais pas si les personnes qui t'ont, que tu pensais pouvoir te soutenir et qui n'ont pas forcément répondu à l'appel étaient extrêmement proches. Mais c'est vrai que ça doit rajouter aussi une blessure au deuil qui doit être difficile à gérer.
Oui, bah c'est vrai que j'ai écrit un livre dans lequel je parle de tout ça, parce qu'en fait, tout est un sujet qui pourrait durer des heures, mais le postpartum, en
Oui.
effet, en deuil périnatal, c'est un sujet. La Sécu qui nous renvoie des papiers, félicitations pour l'arrivée de votre bébé, c'est un sujet.
Oui, mode automatique. Le congé, la maternité aussi, apprendre,
Oui.
comprendre comment ça se passe.
Alors, le congé, il est acquis à partir de 22 semaines de grossesse. Voilà, après, on le prend pas, c'est pas une obligation. À celui-là peut s'ajouter un congé deuil. En fait, il y a énormément de choses parce que tout ne connecte pas les aides potentielles pour pouvoir payer les funérailles. On a l'info trop tard. L'info,
Oui.
elle arrive quand on a déjà pris une décision. Donc ça devrait arriver avant parce que certaines personnes, ça peut être. La cause financière peut être peut peser fort dans la balance et leur faire prendre un mauvais choix. Parce qu'on ne sait pas toujours que la CAF participe ou il y a même d'autres options. L'entourage, c'est un sujet. Le retour au travail, c'est un sujet. Enfin, il y a énormément de sujets et du coup, on ne pourrait pas forcément développer là. Et j'en parle beaucoup. Enfin, j'en parle vraiment ouvertement dans mon livre. On a eu des
Comment s'appelle ton
personnes.
livre?
La naissance d'un bébé lumière.
D'accord. Je pense que c'est intéressant. On le mettra en lien dans
Oui, tout à
l'émission,
fait.
Elodie.
Ouais,
On le trouve sur
c'est.
Amazon, c'est ça?
Oui, il est disponible à la commande sur Amazon. Donc, c'est Marilyn Serrano, le nom de l'auteur. Donc, avec le nom de l'auteur ou le titre du livre, on le trouve facilement. Et je parle de ce parcours qui a été très difficile, mais à la fois aussi de toutes les thérapies qui ont été très constructives, donc en psychologie, en énergétique, en spirituel, ce qui nous a permis aujourd'hui de cheminer là où on en est. Et de tout ce que le deuil périnatal. Implique justement au niveau amical, familial, sociétal. C'est parfois des ruptures de liens très forts, de longues années, parce que en fait, la souffrance, elle est tellement intense. Moi, j'ai dit à une amie qui m'était très chère récemment qu'en fait, je ne pouvais plus la voir. Mais pas parce que je l'aime plus, pas parce que. Mais parce qu'en fait, quand on se voit, on parle de tout et de rien. Et la dernière fois qu'on s'est vu, c'était un moment où pour moi, c'était très difficile et incapable d'accueillir. Et je comprends qu'elle ne puisse pas accueillir et qu'elle ne sache pas quoi faire et quoi dire. Mais en fin de compte, punaise, c'est nous qui sommes déjà dans une souffrance extrême. Et en plus, c'est à nous de nous d'adapter notre comportement et ce qu'on va dire et comment on va le dire et tout ça pour ne pas froisser les personnes en face. C'est quand même.
Qu'est-ce que tu aurais voulu entendre, toi?
Juste pouvoir déposer ce que j'avais besoin de déposer. Avoir l'espace de
Ouais.
pouvoir pleurer, de pouvoir dire ce que je ressens. Et en fait, on l'a quasiment jamais, cet espace-là. Parce que qui est prêt à accueillir quand on demande à quelqu'un comment tu vas? D'ailleurs, on pose la question très bêtement, salut, ça va? Parce que les gens vont
Banal,
nous dire ça va.
banal.
Est-ce qu'on demande concrètement à quelqu'un comment tu te sens? Comment tu vas? Parce que quelqu'un qui
Comment
va nous
tu te sens
répondre, oui,
aujourd'hui?
voilà.
Parce que ça peut changer. Et puis, il y a les dates anniversaires aussi de la
Oui.
naissance, des annonces, des choses comme ça qui reviennent travailler. Et voilà, on se dit, bon, ben voilà, ça y est, ça s'est passé, vous allez peut-être passer à autre chose. C'est pas possible. La personne continue de vivre à l'intérieur de nous, au travers des dates anniversaires aussi, même 1 an, 2 ans, 10 ans plus tard.
Oui,
Et
complètement.
du coup, qu'est-ce que toi tu as créé du coup? Comment tu accompagnes maintenant aujourd'hui?
Et du coup, ça a été, enfin, tout ça a été une énorme révélation sur le besoin d'accompagner et la fin de vie, parce que quand on décide d'avoir un enfant, on parle jamais de la mort, alors qu'en fait, tout parent qui donne la vie projette la mort. À un moment donné, elle va arriver, que ce soit pendant la grossesse, à 10 ans, à 20 ans, à 90 ans. On espère toujours
Oui.
le plus tard possible et on ne sait jamais quand elle va arriver, mais on donne la vie, on donne la mort. C'est de fait. Ça nous concerne
C'est notre
absolument tous.
responsabilité.
Alors que ça, c'est quelque chose qui est absolument tout le temps occulté. Et du coup, j'en profite pour placer quand même quelques chiffres que j'ai relevés sur des données officielles de l'INSEE, parce que c'est assez édifiant quand même. En 2022, on avait 727 143 naissances. En 2023, on en a beaucoup moins, quasiment 100 000 de moins. On est à 639 533. Donc déjà, on a une énorme baisse de la natalité.
De la natalité.
Et en 2022, on a 6 391 bébés qui sont nés sans vie. En 2023, dont notre fils Hugo, on a 8102 enfants qui sont nés sans vie, 102 bébés. Donc on a quasiment...
Tu penses que c'est dû à quoi, ces chiffres, cette augmentation?
Bon, c'est un avis très personnel, je ne sais pas si je pourrais le partager ici, parce que je pourrais froisser des oreilles. Mais pour moi, on est en lien avec la pandémie et la vaccination, ce qui n'est pas mon cas d'ailleurs. Voilà, je dirais juste que pour moi, je sais que ça n'a aucun lien avec ça. Mais en tout cas,
ça a pu générer aussi d'une certaine manière.
Ouais.
Je pense même qu'on pourrait même élargir en disant si je pense qu'il y a une grosse part environnementale aussi.
Oui, tout à fait. Oui,
avec les perturbateurs endocriniens, tout ce qu'on entend, la pollution.
Et des chiffres qui concernent du coup la pédiatrie et pas seulement la périnatalité. En 2023, donc c'est les derniers chiffres qui ont été publiés, parce que les chiffres de 2024 sont encore pas, on ne peut pas les avoir pour le moment. Du coup, sur 2023, on a 9,92 pour 1000 personnes décès de tout âge. Donc pour 1000 personnes décédées, on compte 9,92 décès. Pour 1000 personnes vivantes, pardon, 9,92 décès. Pour les enfants, ça concerne 4,19 pour 1000. Donc on a quasiment la moitié, on est pratiquement à la moitié de décès d'enfants entre 0 et 19 ans. Donc c'est juste absolument énorme. Et pour autant, on n'en parle jamais. Et en fait, c'est tout ça qui m'a fait prendre conscience du besoin essentiel d'accompagner du coup la fin de vie, que ce soit en périnatalité, donc pendant la grossesse, mais aussi la fin de vie de la pédiatrie et des enfants malades qui vont décéder avant 19 ans, parce que moi je veux me consacrer jusqu'au jeune adulte, quoi, mais après
voilà. Simplement la mort, en fait.
Oui, voilà, pouvoir parler de la mort, accompagner la mort, reprendre conscience que la mort fait partie de la vie. Oui.
Qui peut arriver à n'importe quel moment et de faire entendre ce mot-là, la mort, en fait. Parce que je sais que c'est des choses qui peuvent être très, très difficiles à entendre. On va le cacher sous le mot deuil ou ce genre de choses. Mais ça, c'est juste l'action qui va se mettre en place de manière biologique, sociale et compagnie. Mais en réalité, le premier pas, la première chose qui se passe, c'est la mort ou le décès de quelqu'un, si on a envie d'adoucir quelque chose, mais il n'y a rien à adoucir là-dedans, on n'adoucit pas le mot vie. Donc oui. Finalement, en parler, c'est aussi naturel, c'est aussi reprendre sa place aussi d'être humain.
Oui, et puis en fin de compte, quand on commence à délier un peu les langues sur ce sujet, il devient beaucoup moins lourd, en fait, parce qu'on est tous concernés, on a tous perdu quelqu'un qui nous est cher, et du coup... Ça devient beaucoup moins lourd quand on commence à poser des mots dessus. Et en fait, moi, je pars du principe que si on évite au maximum, donc c'est pour ça qu'il faut être là avant, dans la mesure du possible, parce que la mort parfois frappe brutalement et on peut rien préparer. Mais quand c'est possible de préparer, et du coup, dans le cadre de l'IMG, c'est possible de préparer. L'accompagnement de la fin de vie, elle est extrêmement importante parce que elle va, si on n'a aucun regret, si on n'a pas de culpabilité de se dire si j'avais su, j'aurais fait comme ça, si on n'a pas de colère envers la vie, envers les autres femmes enceintes, envers la société, envers bref tout, tout le bonheur des autres, tout ça, c'est des choses qui vont permettre et faciliter le chemin de deuil et la reconstruction. Et en fait, la Tana Doula, parce que du coup, c'est la doula qui accompagne la mort, contrairement aux doulas qui accompagnent la naissance, du coup, la Tana Doula, elle est là pour permettre ce cheminement le plus doux possible pour favoriser après la reconstruction, parce que malheureusement, qu'on le veuille ou non, la vie, elle continue, quoi.
C'est important ce que tu dis sur le mot. Tana Doula et Doula, parce que c'est quand même controversé, le statut des doulas ou des accompagnants en périnatalité, que ce soit pour la naissance ou pour le deuil. Alors je pense qu'en plus c'est encore pas forcément très connue, cette spécialité aussi, cette spécificité du rôle de la doula, notamment de l'accompagnement des endeuillés. Et est-ce que
Je
tu
dirais
vois,
même,
est-ce que
je me permets
t'en
de te
veux
couper, Lucille.
penses?
Je me permets de te couper, je dirais même qu'il est encore mal vu. Il est
Il est encore
vraiment,
mal vu.
Ouais, même
Parce que la
auprès des
question que je me
professionnels
posais
de
justement,
santé.
voilà, est-ce que, par contre, la Tanadoula peut être un peu mieux perçue, parce que du coup, comme c'est un sujet qui est très particulier, qui est donc la mort, est-ce que du coup, toi, ça a été plus facile d'avancer dans ta posture, dans ce cadre-là, pour accompagner, vu qu'il y a quand même un réel manque. C'est ce que tu nous montres, c'est que finalement, l'action, l'IMG est allée plus vite que l'accompagnement psychologique et psycho-émotionnel. Et là, du coup, la Tanadoula, elle a vraiment son importance.
Oui, elle a clairement son importance. Après, pour le moment, les Tanatoulas, elles sont en France depuis justement la pandémie Covid. Donc,
Ouais.
c'est un métier qui est en émergence. Il y en a quoi? Il y en a 200 en France. Alors, en tout cas, formés par là où moi je me suis formée. Mais c'est un métier qui est en devenir. Donc, pour le moment, elles ont encore très, très peu de place. Comme les doulas sont confrontées aux sages-femmes qui ne sont pas forcément accueillantes, qui ont l'impression qu'on leur met des bâtons dans les roues, là, c'est pareil. Quand on entre dans le milieu médical, il y a des infirmières, il y a des aides-soignantes, il y a des médecins qui comprennent pas, il y a des aumôniers qui sont là pour le côté religieux. Donc du coup, c'est quoi vraiment le rôle de la Tanadoula? Alors qu'en fait, la Tanadoula,
Mais
elle est
justement,
coordinatrice de tout ce monde-là et elle est là pour accueillir la souffrance. Elle n'est pas psychologue, elle n'est pas infirmière, elle donne aucun soin médicaux, mais elle est vraiment là pour favoriser et harmoniser en fait cette fin de vie pour qu'elle se passe avec le moins de séquelles possible. Je sais pas si
quelles seraient les tâches, par exemple? Est-ce que la Tanadoula peut accompagner les familles pour le côté administratif ou la mise en place des funérailles ou ce genre de choses?
oui, ça peut être un des rôles de la Tanadoula. Elle peut d'abord être présente. Juste être une présente pour la personne en fin de vie. Alors, je parle de manière globale, pas par rapport forcément à la pédiatrie, mais du coup, ça s'applique partout. Parce que quand on est en bonne santé, on a une vision de la mort qui est propre à chacun. Sauf que quand on arrive sur le pas de la porte et que la mort est imminente, tout ce qu'on avait toujours projeté jusqu'ici, ça n'a plus lieu d'être. Et en fait, c'est d'autres angoisses qui arrivent. En fait, c'est beaucoup de deuils qui sont à faire en amont. C'est le deuil de l'autonomie, le deuil de la vie, le deuil de ce qu'on n'a peut-être pas eu le temps de faire ou de faire. C'est le deuil de certaines relations. C'est un cordon à couper avec les personnes de notre entourage. C'est être prêt à les lâcher tout en sachant qu'ils vont être dans une souffrance énorme. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui se jouent aussi dans l'inconscient. Donc en fait, la Tanadoula, elle est vraiment là en. Bah, pour accueillir tous ces questionnements, tous ces doutes, toutes ces peurs, rassurer et apaiser le mourant pour
Oui.
lui permettre peut-être de poser des mots, l'aider à exprimer des choses qu'il n'oserait pas exprimer avec son entourage proche ou l'entourage médical parce qu'il aurait peur de froisser. Et puis en effet, bah, c'est aussi être ce soutien pour l'entourage qui va devoir autoriser la personne en train de décéder à partir, parce que souvent la personne qui doit
Ouais.
décéder, elle a besoin d'une autorisation de ses proches. Donc ça va être accompagner le vivant pour l'aider dans ce cheminement-là. Et après, ça va être un accompagnement sur, en effet, être un relais pour des démarches administratives pour faciliter, voilà, être un soutien, être un relais des dents quand c'est voilà, des personnes qui ont besoin d'aller prendre l'air, d'aller faire une course et qu'elles ne veulent pas laisser la personne seule, bah, c'est être là avec en remplacement pendant que la personne va s'aérer. Voilà, elle est.
J'espère que les auditeurs et les auditrices notent vraiment l'importance et le rôle de ton métier là-dedans, et qu'il y aura de plus en plus de tanadoulas et d'accompagnants du deuil, et que les professionnels vont se former davantage aussi à l'accompagnement du deuil, parce que c'est énorme ce que tu fais. C'est énorme ce que tu
Oui,
fais. Ton parcours déjà est incroyable, mais en plus d'avoir ce lien-là si ténu avec la mort et d'accompagner aussi les mourants, ça, c'est magnifique. C'est magnifique.
Et puis c'est... Enfin, moi, quand je repense au jour de l'IMG, au moment de l'accompagnement de la mort de notre fils, je ne veux pas trop me connecter, parce que généralement, ça fait monter beaucoup d'émotions, mais c'est... En fait, c'est tellement plein d'amour. Ce n'est pas du chagrin, c'est pas de la tristesse, mais c'est vraiment un amour qui est tellement immense et indescriptible que... En fait, il est envahissant, c'est enveloppant. Et je trouve que accompagner la fin de vie comme ça, c'est ce que tout un chacun mériterait. Surtout qu'on parle beaucoup aujourd'hui avec la loi qui est en cours de discussion pour accompagner la fin de vie avec dignité. Mais est-ce que c'est pas ça la dignité, finalement? C'est ramener de l'amour et accompagner nos êtres chers.
C'est une forme de spiritualité aussi.
Parce oui, complètement.
Peut-être un peu aussi déconnecté de ça. Tu parlais de l'aumônier pour toutes les personnes qui du coup sont croyantes. Mais moi, ce que je note, c'est qu'en fin de vie, même les personnes qui sont athées, qui ne croient pas, ont quand même cet élan de s'accrocher, quand même de savoir qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qui se passe. Et il y a quand même cette volonté de l'esprit, quand même, de savoir ce qui se passe.
Ah oui,
à un moment donné.
Oui,
et je pense pas que ce soit une question de religion. C'est pas une question de croire en un dieu ou en un autre. C'est pas cette question-là qui se pose. C'est vraiment au-dessus de ça, au-delà de ça. Et je pense que c'est pareil. Du coup, ne pas confondre la spiritualité et la religion, ce n'est pas du tout la même chose.
Non,
je trouve
non,
que
c'est deux sujets.
Qui puisse accompagner comme ça et qui puisse accompagner aussi de manière, on va dire, laïque d'une certaine manière, parce que, tous les mourants sont pas forcément croyants aussi, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas besoin d'avoir un accompagnement particulier de ce moment-là et que les familles n'ont pas besoin d'avoir un accompagnement de ce moment-là et qu'il est important de ne pas se couper de tout ça parce qu'on en a besoin, en fait, tout simplement. C'est un besoin.
Merci, Lucille. C'est la fin du bonus du témoignage de Marilyn. Encore merci, Marilyn, d'être venue raconter ton histoire, ta très belle histoire, et montrer ton beau cheminement aussi. Je trouve très admirable. Merci, Lucille, pour ta présence aussi et d'être auprès de moi pour cette belle émission. On se retrouve tous les premiers lundis de chaque mois de 10h à 10h30 pour la pause maternelle. Merci beaucoup.
Merci à tous. What started as a whisper slowly turned to a scream, searching for an answer where the question is unseen. I don't know where you came from, and I don't know where you've gone. Old strangers between the darkness and the dawn. Amen, amen, will I see your face again? Amen, amen, can I find a place within to live? You, I still hear you saying all of life it is chance. And it is sweetest when at a glance.